C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Eh bien, ce mois de l'histoire des personnes noires, nous célébrons 30 ans de reconnaissance officielle au Canada, mais j'aimerais qu'on parle de cette histoire au pluriel. Et pour en parler, nous recevons l'animatrice de l'émission Pas te mentir, qui est une figure aussi incontournable de la culture urbaine et des médias ici au Québec, Katie Antoine, et Fabrice Nguyena, qui est l'auteur du livre Afroqueer, qui donne la parole, enfin, au récit des personnes noires LGBTQIA+, ou comme il le dit si bien lui-même, Afroqueer. Bienvenue à tous les deux.
Salut, merci pour l'invitation.
On est très contents, puis on connaît aussi, je vais le dire, on connaît aussi Katie parce qu'elle est aussi animatrice à Canal M, alors on est très contents de te recevoir. Je pense que je vais commencer...
Bonjour.
Oui, allô Fabrice. Alors,
bonjour Denis Martin, bonjour Katie.
On est très contents de te
voir. J'espère qu'on m'entend, hein. J'espère que le qu'on m'entend...
On t'entend très bien. On entend. Okay, oui, je sais que tu es très loin, mais on t'entend très bien. Fabrice, justement, dans ton livre, tu parles de la double invisibilité. Pourquoi c'est important et c'est crucial même en 2026 de documenter spécifiquement les vécus afro-queer?
Oui, bien sûr. Surtout ce mois de l'histoire des personnes noires et justement un mois qui aiderait à avoir... la réalité, l'intersectionnalité, justement, racisme et puis queerphobie, ça dit transphobie, homophobie. Et donc, en fait, ce mois permet justement de voir qu'on a invisibilisé hein, une partie des personnes qui pourtant étaient avant-gardistes dans les luttes pour les droits civiques. Hein.
Oui.
Là, on parle par exemple de Baya Rustine, qui était le militant en avant pour la lutte des droits civiques, qui finalement a été invisibilisé. On peut parler de James Baldwin, qui était en avant lors des discussions, l'intellectuel, l'auteur. Sabine aussi a été invisibilisé. On peut parler de Marsha P. Johnson aussi,
oui.
Militant trans. Qui a beaucoup fait pour la cause. Donc, tout ça réuni, on se rend compte que ben, si nos vies sont invisibilisées, si nos combats, si nos contributions sont invisibilisées, il va falloir que nous, personnes afro-queer, écrivions nous-mêmes nos propres récits. Et c'est ça qui m'a amené, donc, moi, à me dire, il n'y a personne à part nous-mêmes qui pourra nous donner la voix. Et
oui.
Puis, j'ai donc... Et que ce recueil de 25 portraits...
C'est un excellent recueil, en passant, que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs. Je vais envoyer une question à Katie. Toi, Katie, tu oui. navigues hein, dans les médias, le hip-hop. Tu es quelqu'un, quand même, hein, qui roule sa bosse depuis longtemps tu es quand même une jeune personne, mais tu as évolué... Comment tu as vu cette évolution là, des identités queer au sein des communautés noires montréalaises, entre autres?
Oui, merci pour, premièrement, l'espace de
ouais.
communication, d'échange, parce que moi, c'est vraiment ça mon cheval de bataille, c'est justement de créer des espaces de dialogue, de normaliser la différence et aussi de permettre aux individus, aux personnes noires, mais aussi à tous les citoyens, de remettre en question la normalité, de se permettre d'explorer qui on est et puis aussi de célébrer la différence. Fait que c'est ça que je fais, non seulement à travers l'émission que j'anime à Canal M qui s'appelle Nouveau Départ, mais aussi à travers Pas te mentir. Et puis, Pas te mentir, ben, on a offert un épisode où on explore justement le thème de l'homosexualité à l'intérieur des communautés afrodescendantes. Parce qu'il faut le rappeler, on n'est pas les afrodescendants, on n'est pas une communauté, un bloc monolithique, que ce soit en termes d'identité, d'opinion, de parole, de vécu, d'histoire et aussi de célébration de sa propre identité afrodescendante, comme on la vit et comme on a envie aussi de l'exprimer. Je ne pense pas que tout le monde... a besoin de devenir un militant ou quelqu'un de politiquement engagé dans la défense de sa personnalité. Il y a des personnes qui sont vraiment, qui ont cette position privilégiée dans la société, mais je pense que dans notre quotidien, c'est très important de se rappeler et de se permettre d'être soi-même,
oui.
d'être bien dans ce qu'on est.
Est-ce que le terme intersectionnalité, ça, c'est un terme tabou par certains, est-ce que c'est mieux compris ou ça reste encore un défi à expliquer?
Si.
Vas-y,
Fabrice.
Non, vas-y.
Vas-y, Cathy. Cathy, oui.
Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des groupes qui sont très marginalisés et l'intersectionnalité, c'est un concept qui doit être vraiment mis de l'avant. L'intersectionnalité, en fait, c'est plusieurs biais qui peuvent affecter notre quotidien, qui peuvent affecter la perception de la société sur ce qu'on est, qui on est. Comme moi, je suis une femme noire, monoparentale, veuve. Alors, toutes ces réalités font en sorte que je peux vivre des obstacles que d'autres personnes qui ne vivent pas toutes ces particularités-là rencontrent. Donc, oui, je pense que c'est encore important d'en parler, de le démystifier et de sensibiliser les gens à ces différentes réalités qu'on peut rencontrer et qui peuvent venir mettre un obstacle dans notre épanouissement, que ce soit personnel, professionnel ou social.
Fabrice.
Oui, effectivement, Katie a raison. Et on voit ce que Bayard Rustin, qui est quand même né en 1912, disait déjà à son époque. Hein, il disait, le jour où je suis né avec la peau noire, je suis aussi né homosexuel. Soit il croit réellement à la liberté pour tous, soit il n'y croit pas. Donc, c'est vraiment une meilleure façon de montrer les deux discriminations qu'il porte. Et il appelle donc, en fait, à lutter contre ces deux discriminations ou contre toutes les discriminations de la même manière, de façon à ce qu'on ne hiérarchise pas les discriminations. Tout ça pour dire que le racisme n'est pas plus grave que l'homophobie, le racisme n'est pas plus grave que la transphobie, ce sont des discriminations, ce sont toutes des formes de racisme. Donc, même si ça a été conceptualisé il y a quelques décennies, mais les personnes qui le vivent, qui le portent, le savent très bien dans leur chair.
Fabrice, je vais relancer une autre question à toi. Tu affirmes que l'homophobie, ça a été importé en Afrique avec la colonisation. Comment cette perspective change-t-elle la donne là, pour les jeunes de l'Occident, d'origine africaine, qui cherchent leurs racines?
Oui, très, très bonne question, parce que justement, quand on parle de déconstruire l'homophobie dans les communautés africaines et afrodescendantes, bien sûr, l'angle où il faut aller, c'est vraiment décoloniser les mentalités. Parce que dans nos communautés, ben, il se trouve que l'homophobie est arrivée avec la colonisation. Quand la colonisation arrive dans les territoires africains et caribéens, elle arrive avec les lois qui existaient en Europe, le code Napoléon, les lois anglaises, et qui étaient criminalisées en Europe, donc vont également criminaliser sur ces territoires colonisés. Amènent leur religion monothéiste, où on parle du péché, c'est mauvais. Donc finalement, les populations africaines afrodescendantes ont intégré cela et malheureusement, aujourd'hui, croient que l'homosexualité a été importée, alors que c'est l'inverse, c'est l'homophobie qui est venue avec la colonisation. Et c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'on parle de décoloniser les mentalités, les croyances, la façon dont on se regarde et surtout la façon dont on regarde nos identités de genre, nos identités sexuelles. Si on la regarde avec le prisme néocolonial, bien sûr qu'on va parler du péché et de tous ces trucs importés dans les religions monothéistes. Et pourtant, dans plusieurs tribus africaines, on voit très bien que c'était des faits de société qui existaient déjà. Pour terminer sur ce point, Lorsque l'ANC de Nelson Mandela arrive au pouvoir dans les années 90, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décriminalisé l'homosexualité, l'homosexualité, oui, dans la constitution sud-africaine qui, elle, la criminalisait. On comprend que la constitution sud-africaine était une constitution anglaise. Ouais. Donc l'ANC arrive, c'est un parti de Noirs, d'Africains, disent que non, dans nos traditions bantoues, l'homosexualité est un fait de société. Donc, en fait, l'homophobie dans nos communautés vient du fait qu'on ne connaît pas assez nos histoires, on ne connaît pas notre histoire, on la lit sous l'angle, hélas, néocolonial.
De ton côté, Katie, tu as quand même, on va revenir là-dessus, parce que dans cette série télévisée à Tout.tv, pas te mentir, il y a eu un épisode et c'était quand même assez, ça allait assez loin. Tu as même fait un coming out dans cette émission-là. Pourquoi c'est important d'en parler ouvertement, même dans les communautés qui sont ici établies au Québec depuis longtemps?
Oui, j'ai utilisé la plateforme de Pas te mentir pour non seulement faire mon coming out de mon expérience personnelle, mais aussi inviter les gens à se ressaisir, à sortir de la politique, là, et puis de vraiment utiliser leur jugement à tout point de vue. Parce qu'à la fin de la journée, il va falloir qu'on s'aime, il va falloir qu'on s'accepte, et il va falloir qu'on apprenne à célébrer nos différences, nos particularités, et surtout qu'on s'offre cette liberté d'être qui on veut être. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'incorporer avec mon cheminement, mon histoire et mes témoignages. En me le permettant à moi-même et en le partageant, j'ose espérer que ça pourra inspirer quelqu'un d'autre à le faire pour lui-même.
Tout à fait.
Et que les autres personnes qui se disent non concernées, qu'ils se sentent concernés par le côté humain, par l'humanité derrière tout ça.
J'entends le message de Bad Bunny, là, si vous vous rappelez, lors du Super Bowl. Hein, l'amour, c'est plus fort que la haine. Est-ce que c'est ça qu'on va devoir faire? Là?
Oui, c'est l'antidote le plus puissant. Hey, on est ici de passage. Je pense que la politique a vraiment sa fonction de mettre l'ordre. Mais quand il s'agit de l'acceptation des êtres humains, moi, je suis vraiment d'accord avec Fabrice. Il faut se décoloniser non seulement le cerveau, l'âme, le cœur et se rapprocher. Et c'est ça qu'on offre. C'est des conversations où ce qu'on peut mettre des mots sur des ressentis et aller vers l'autre. Moi, j'ai envie qu'on utilise le mois de l'histoire des Noirs pour que nos communautés afrodescendantes se décomplexent. Et que vraiment, on retourne vers nos vraies valeurs communautaires et qu'on se rappelle dans notre ADN qui nous sommes.
Bien, je vais vous remercier tous les deux, Fabrice Nguena et Katie Antoine, d'avoir participé à cette discussion très importante et nécessaire en ce mois de l'Histoire des Noirs. Et puis, je vous rappelle tout le monde que ce mois de l'Histoire des Noirs est aussi un rappel de l'importance de nos communautés et de se vivre ensemble. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Denis Martin. Merci Katie. Bye-bye.
Salut.
Et après la pause, une enquête sur le Comité des Sages et on va parler aussi de Montbro. À tout de suite!